C'était il y a 6 ans, en 2002, et la guerre venait de se terminer quelques mois auparavant avec la mort de Jonas Savimbi le 22 février 2002. Il est important peut-être de dire, parce que ce n'est pas si fréquent, que la mort un certain jour de 2002 de Jonas Savimbi, qui était donc le rebelle par excellence, a sonné l'arrêt total, immédiat, absolument immédiat des combats. Nous savions que c'était un pays prioritaire pour nous, compte tenu des années de communisme et de guerre. Et il y a donc 16 diocèses, il n'était pas question de visiter la totalité des diocèses au nombre de 16, et nous avons choisi les 7 les plus affectés par la guerre civile. Et c'était donc une bande médiane, je dirais, de la mer, c'est-à-dire Huambo, Sekwitobie, Selwena, qui correspondait en fait au fief de Jonas Savimbi. Et on a commencé par le diocèse de Kwitobie, un endroit de destruction massive. On avait l'impression de temps en temps de voir l'une ou l'autre maison tenant encore debout, et en fait c'était un leurre. Derrière une façade qui semblait tenir, il n'y avait plus rien derrière. Mais rien du tout, c'est-à-dire ni maison, ni chapelle, ni église, ni centre pastoraux, ni boutique, rien du tout. L'évêque nous avait demandé à ce moment-là de l'aider à mettre des fenêtres sur l'ancienne salle de cinéma sur laquelle ils avaient réussi à mettre quelques tôles pour protéger de la pluie et du vent, parce que cette ancienne salle de cinéma était devenue l'église, l'unique église du diocèse de Kwitobie.
Une vision, donc, je suppose, de totale désolation face à toute cette destruction.
Tout avait cette allure, c'est-à-dire, c'est avec méticulosité, on dirait, que tout avait été détruit. Je me rappelle cette cathédrale qui n'offrait plus au regard que le clocher. Et c'est bien évidemment la végétation qui avait envahi le lieu, et ça, c'est quelque chose que nous verrons partout. Quand il n'y a que ruine et désolation, la végétation prend le relais avec beaucoup de vigueur. Nous avons vu une grande demeure aussi, qui était, paraît-il, l'évêché, qui lui fut totalement détruit en 1994. Et lui, l'évêque, aujourd'hui, vit dans une toute petite maison, des plus modestes, qu'il partage avec quelques prêtres, mais pour lui et comme pour tous les autres évêques, en fait, le renouvellement de leur maison n'est sûrement pas la priorité. Et je crois qu'il faut d'emblée insister sur le fait que pour ces évêques, qui, au milieu de leurs ouailles, ont vécu la tragédie, pour eux, c'est la formation des cœurs et des esprits.
C'est en réalité toute la mission même du travail d'aide à l'Église en détresse.
Nous répondons pleinement à l'attente des évêques quand nous leur offrons de former les cœurs et les esprits, et ceux de tous les états de vie, c'est-à-dire des futurs prêtres, des jeunes prêtres, des religieuses et des laïcs.
Alors vous quittez Kwitobie pour quel diocèse ensuite ?
Ensuite, nous partons à Huambo. Huambo, un archidiocèse. Tout au long de la route, nous voyons un paysage très très désolé, et aussi, à ce moment-là, une végétation assez épisodique, parce que la guerre aussi a fait des ravages. Nous voyons des gens à peine abrités sous des amas de branchages, et je me souviens de ces centaines de personnes, adultes et enfants, incapables de vaquer à aucune occupation, parce que rongés de toutes sortes de maladies et de manque de nourriture. Et à côté de ça, sur la route, nous voyons des camions flambant neufs qui transportent le pétrole, car on le sait peut-être, l'Angola est le deuxième producteur de pétrole en Afrique après le Nigeria.
Vous trouvez donc là une population totalement démunie.
La population est dans un état pitoyable, je le disais, donc sous des branchages avec absolument rien pour vivre. Et ne négligeons pas le fait que ces pays-là, et je pense aussi au Mozambique, ont reçu des mines anti-chars et anti-personnel par centaines de milliers. Et ça veut dire que la population, en fait, même si la guerre est terminée, est quand même confiné parce que pour des années encore, il est impossible pour ces gens-là de retourner dans les champs et de cultiver. Et vous voyez au long des routes et au long des semaines, ces gens mutilés, et parmi eux, vous pouvez imaginer, beaucoup d'enfants qui ont sauté sur une mine antipersonnelle. Je me rappelle moi-même dans une voiture, je passais à proximité du diocèse de Louéna et j'apprenais que la veille, un véhicule avait sauté sur une mine antichar et c'était la route que nous devions nous-mêmes emprunter. Ou alors cette obligation que nous avions quand les mines avaient été repérées au long de la route, de nous arrêter quand une autre voiture arrivait en face parce que déborder de quelques centimètres pouvait risquer justement une nouvelle explosion. Et on ne se rend pas compte, moi je ne l'ai vécu que pendant 4 semaines, mais c'est le quotidien de ces gens-là, de ne pouvoir imaginer un avenir à cause de ces mines qui sont une tragédie complémentaire.
À Wambo donc, c'est l'archevêque, je crois, que vous rencontrez alors tout d'abord.
Cet archevêque de Wambo nous a donc fait visiter le diocèse, cette ville qui offrait finalement le même spectacle un peu fantomatique que Quitobie que nous venions de laisser. Tout ce qui était structure commerciale, il n'y a plus que 4 murs, il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'église, c'est toujours la même litanie.
Dans ce dénouement total, quelles sont les attentes au fait de cet archevêque? Quels sont ses espoirs? Quelles sont aussi ses priorités?
J'ai été très frappée à Wambo de voir l'attention que l'archevêque apportait à la formation des sœurs. Elles-mêmes sont au quotidien auprès des populations et très souvent elles nous sollicitent pour avoir un petit quelque chose pour vivre parce que ce qu'elles reçoivent de notre part, c'est-à-dire de nos bienfaiteurs, n'est pas simplement destiné à leur survie au quotidien, mais nous savons qu'elles vont aider les orphelins, les veuves, les familles en achetant aussi des médicaments. Et donc il y a une véritable démultiplication de ces dons au profit de la population qui les entoure. Et bien évidemment, si je pense aux sœurs, je pense aux sœurs contemplatives qui représentent aussi une priorité pour nous. Et ainsi, à Benguela, il y a la congrégation de Ma et des Deush, qui sont des sœurs contemplatives qui deviennent un lieu de paix, un havre de paix pour ces populations qui ont besoin de reprendre cœur. Et elles aussi, nous les aidons afin qu'elles puissent continuer cette mission de prière et d'accompagnement.
Alors, vous allez de diocèse en diocèse, vous trouvez partout, je suppose, la même désolation. Vous êtes là pour faire le bilan, je dirais, prendre le pouls de ce pays exsangue après pratiquement 30 ans de guerre civile.
Oui. Ce que les évêques nous demandent, en fait, c'est de les aider à reconstruire. Je parlais tout à l'heure des cœurs et des esprits, mais il ne faut pas oublier, dans ces pays qui ont tout perdu, et je pense à l'Angola, au Mozambique ou au Soudan, il faut absolument être présent et avoir vu de nos yeux pour offrir une aide majeure qui permet de remettre un toit sur une église, à supposer qu'il y ait encore quelques murs, de reconstruire un centre catéchétique, car le rôle des catéchistes est tout à fait primordial. Il faut reconstruire les maisons des sœurs, il faut offrir 2-3 salles de formation pour accueillir les gens. Mais il faut aussi, dans un pays absolument gigantesque, il faut aussi proposer ici et là un véhicule, et sinon une moto. Il faut proposer des bicyclettes aux catéchistes, c'est-à-dire tout ce qui permet à l'Église d'être auprès des populations.
Au sortir de cette guerre civile si longue, c'est donc un pays à genoux que vous avez découvert, mais tout est pourtant là, à ce moment-là, possible.
Compte tenu de la durée de la guerre, 27 ans, il y avait à ce moment-là qu'un nombre minimum de paroisses qui pouvaient être ouvertes et qui marchaient tant bien que mal. Mais à la fin de la guerre, les paroisses, toutes détruites les unes derrière les autres, se trouvaient de nouveau accessibles, mais dans un dénuement absolument total. Donc il manquait et de prêtres et de structures valides. Et là, vous pouvez imaginer en effet que ces reconstructions matérielle et spirituelle devenait la priorité des priorités. Et moi, j'étais frappée au terme de 4 semaines de voyage et des contacts pris par la suite avec cette église d'Angola, de voir la vitalité de l'église qui ne s'est jamais démentie en dépit de tant d'années de détresse.